Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Cube Radio.
L'épisode qui suit traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis.
En effet, on parle en détail de trafic de drogue et de violence.
Je vous rappelle que la voix de la source est rejouée par un comédien.
Moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis un ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québécois.
Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Vous écoutez maintenant l'épisode 5 de notre série Narcos PQ, au cœur de la Colombie. Et si c'est pas déjà fait, on vous recommande chaudement d'aller écouter les épisodes dans l'ordre pour comprendre ce qui va suivre.
Et on vous laisse le temps de faire stop.
Et nous, on va y aller avec le 5e et dernier épisode de la série. En mars dernier, moi et Marc, on est revenus de Colombie avec des révélations incroyables sur les liens des cartels de drogue avec le Québec.
On est allé faire quoi? On est allé documenter les activités d'un narcotrafiquant qui est membre du cartel de Sinaloa et qui importe des quantités colossales de cocaïne au pays.
Mais la question, pourquoi décider d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? On va le découvrir dans quoi? Dans Narcos PQ, au cœur de la Colombie. Dans le dernier épisode, on est finalement parti pour la jungle dans la cordillère des Andes. On s'est retrouvé dans un petit village tout petit de la région du Boyacá. On peut pas dire c'est où exactement et on peut pas dire le nom du village, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que il est contrôlé par un chef de village, narcotrafiquant. C'est un village loin, très loin de Bogota, perché haut dans les montagnes.
Fait que là, nous autres, là, ce qu'on voulait, c'est d'aller dans la cordillère, c'est d'aller voir les plantations de coca, voir les jardins, comme Anel les appelle. Mais là, rappelez-vous, là, on est passé du plan A au plan B, au plan C. Ça prenait des autorisations pour aller voir ces plantations-là. Anel, il est pas chez lui, là. Il est pas sur son terrain. Il faut qu'il ait l'autorisation des propriétaires des lieux. Et nous autres, on attend encore.
Nous, ce qu'on voulait... c'était documenter la production de la coke, de la cocaïne, photographier des plantations. C'était le cœur de notre reportage là-bas. Et c'est ça qu'on voulait aller chercher.
Mais nous autres, on sait pas plus encore qu'est-ce qui s'en vient. On est encore un petit peu dans la brume, un peu comme le climat finalement de Boyacá. C'est de la brume. Et là, il y a un gars qui arrive... hein, ce fameux chef de village, ce chef narcotrafiquant du secteur. On sait pas c'est qui.
Il dit pas un mot d'abord.
Il dit pas un mot. Il vient nous rejoindre. Et là, sans s'en rendre compte, ben on se ramasse tous dans la Toyota, dans le camion blindé, avec lui. On s'en va où? Il va nous montrer une piste clandestine. Une piste clandestine. Fait que là... encore une fois, je suis assis en arrière. Je prends le temps de le préciser, ce à quoi t'as... toi, le barrière, tu l'as connu 10 minutes en à peu près 10 jours.
Oui, exact. Faut ça.
Arrête de rire, il n'y a rien de drôle là-dedans.
Marc aura passé quasiment 16 heures au total, c'est pas plus, dans un minuscule... arrière de Toyota Land Cruiser.
Oui, parce que j'ai eu de la sympathie pour Fred, qui a été malade, parce que Fred...
J'ai
avec
profité de ta Fred sympathie pour Fred. Je vais rester en avant avec Fred.
Oui, et effectivement.
Et là, on s'engage avec cet homme-là qui parle pas.
Mais pas seulement il parle pas. Moi, je tente de lui parler. J'ouvre la conversation avec lui en espagnol. Hein, je lui dis bonjour.
Je me rappelle, moi, je dis à Marc, parle-y un peu. Ouais. Fais la conversation, là. Marc, il me dit, ben oui, mais Chris, il parle pas.
Il parle pas.
Je parle tout seul.
Il parle pas. Il me répond pas. Je lui dis bonjour.
Bon.
Je me présente. Je demande son nom. Non seulement il me parle pas, mais il me regarde pas. Il regarde en avant.
Oui. Et là, on s'en va, on part avec lui. On pensait avoir tout vu dans nos chemins en zigzag en s'en venant dans le Boyaca. Et là, on emprunte des chemins de terre à flanc de montagne, dans des routes défoncées par les glissements de terrain puis les pluies. Et là, j'ai regardé sur la carte topographique à peu près où on était, là, on n'est pas loin de 3800 mètres, à 3800 mètres d'altitude.
Mais nous, là,
on ne
sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. On ne nous le dit pas vraiment. Pour finalement arriver dans cet endroit perdu, où est-ce qu'on voit au loin une piste? Une piste en gravelle avec du gazon tout autour, qui est plongé, qui est parachuté au centre des montagnes. Et comme Félix le dit, on est à pas loin de 4000 mètres d'altitude. Pas des longues pistes. On débarque. Mais on apprend que cette piste-là était utilisée par un associé de Pablo Escobar. Un ou le plus grand trafiquant de l'histoire.
C'est fou, hein?
Oui, c'est fou. En plus, on est dans une place qui a beaucoup d'histoire ici.
Rappelle-moi donc ça, c'était la possédée.
C'est Victor Carenza. Il est boss comme Pablo Escobar.
Lui, il est encore vivant?
Non, il est mort de vieux.
Cet homme-là en question trafiquait des pierres précieuses. Mais cette piste-là a éventuellement changé de vocation et elle est devenue une piste utilisée pour le narcotrafic.
Exact. Et là, ça, donc, ça commence un peu notre sightseeing, comme ils disent, notre tourisme, notre narcotourisme.
Sous surveillance militaire.
Sous surveillance militaire, parce que sur les escarpements de la montagne, des montagnes qui nous entourent, il y a des militaires.
Par le drone?
Qui se cache, qui regarde. Là, nous, sur la piste en question, on déploie notre drone. Là, quand l'homme qui nous accompagnait, le parrain du village, a vu ça...
On s'est rendu compte qu'il vivait.
On s'est rendu compte qu'il était vivant.
Il est parti en courant.
Il est parti en courant.
Il est allé se cacher.
Mais là, plus il regardait ça, puis là, plus il faisait le message aux gens qui nous accompagnaient en disant « Ouais, ça coûte combien, ça? Ouais, on a ça d'en avoir un. » Et là, c'était lui qui était en charge de nous amener dans la plantation. Mais là, le stress recommence parce que là, moi, je vois les heures qui s'écoulent. On est encore à flanc de montagne. On s'en va, je sais pas trop où. Puis en plus, eux autres, ils veulent arrêter de dîner. Écoute, c'est... Là, je sais que les heures s'écoulent, puis que ça marchera pas.
Il est rendu passé midi, on est encore sur la piste, et on sait aussi que l'expédition pour se rendre aux plantations, ben, ça prend au moins 4 heures. On a de la route à faire en camion. On a ensuite une heure à pied pour se rendre à l'intérieur des terres et on a une autre heure ensuite pour ressortir, donc pour revenir. Tout ça pour vous dire que dans cette expédition-là, on devait prévoir marcher 2 heures à pied dans la jungle. Et ce que Anel nous dit, c'est que ça doit se faire de jour parce que lui, le soir, il ne rentre pas là. Pourquoi? Parce que le soir, c'est des animaux qui sortent. C'est des jaguars, c'est les boas, c'est les pitons. Puis lui, il en a peur.
Et puis moi aussi. Alors là, j'ai dit, ouais, finalement, ça va aller, notre affaire. Là. On abandonne.
Et finalement, on n'avait pas le choix d'aller dîner. Fait qu'on est allé dîner. Mais on est allé dîner, pourquoi? Parce que Anel avait un plan en tête. Lui, ce qu'il voulait, là, c'est qu'on soit en mesure d'établir ce fameux contact avec le chef du village. C'est un contact qui était primordial parce que si on ne l'établit pas, on n'ira pas voir ces fameuses plantations-là et un laboratoire clandestin. C'est lui qui a le pouvoir de dire oui, de nous amener à l'intérieur. Et ce go-là, on ne l'a toujours pas. À vrai dire, là, on l'attend depuis le 12 mars. Mais tranquillement, on a fini par l'établir, ce lien-là. On a réussi à lui parler puis à développer un début de lien de confiance durant ce fameux lunch-là qu'on a pris sur le chemin de retour vers le village.
Donc, pour situer, là, au fond, le fait d'amadouer le boss du village nous a permis d'avoir nos images qu'on cherchait des fameux jardins parce que c'est lui qui est allé les prendre. Il est allé prendre les images lui-même.
Oui.
Ouais. Alors, tu sais, on s'est assez approché de lui, puis Marc aussi avait beaucoup confiance en Marc. Et puis, il s'est assez approché, puis ils se sont rendus à... Il y a un lien de confiance, là, il y a un courant qui passe entre les deux. Et puis, finalement, il est allé lui-même. Il a pris les images, tout ce qu'on voulait voir. Bon, c'est sûr qu'on n'était pas là en personne, mais entre faire une raid dans la jungle avec des jaguars et des boas la nuit, tu sais, on aurait eu pas mal les mêmes images parce que on pouvait juste filmer avec nos téléphones. Alors lui, il a dit, je vais prendre mon téléphone, moi, puis je vais y aller. Il est allé filmer ces images-là, puis nous est revenu avec les images. Mais entre-temps, on a eu un autre problème, parce qu'ayant les images de la plantation, on n'avait plus besoin des rendez-vous qui avaient été arrangés par Engel pour le lendemain. Et lui, il était bien d'accord avec ça. D'ailleurs, on n'avait plus besoin d'aller voir d'autres fameux jardins, d'autres plantations. On avait ce qu'on voulait, on avait l'ambiance de l'endroit, on avait tout ce que ça prenait. Donc, Engel, sous notre recommandation, a annulé ce qu'on devait faire le lendemain. Ça, c'était arrangé avec une femme à qui Engel avait parlé. Elle avait parlé à ses boss dans la plantation. Bref, tout était organisé pour le lendemain, mais là, on s'est décommandé. Et ça a mis vraiment notre vie en danger et celle d'Engel aussi.
Il faut comprendre que des jardins en Colombie, ben, tu n'y vas pas comme tu veux.
On va se le dire, c'est pas de l'agriculture bio puis de l'agriculture durable, on est ailleurs. Hein?
Exact. Et ces agriculteurs-là, ben, ils sont nombreux. Et il faut comprendre qu'en Colombie, on fonctionne par intermédiaire continuellement. Alors, Anne-Elle avait pas des ententes, mais Anne-Elle avait fait des approches auprès de certaines personnes qui allaient nous permettre de voir leurs installations. Et sans s'engager, ben, il revenait vers nous et il nous offrait des options. Mais là, il s'avère qu'une des personnes avec qui il a eu une discussion, cette personne-là a pris ça pour du cash, pour une entente. Et cette personne-là s'attendait à ce que nous, le lendemain matin, on y aille. Mais en fait, là, Anne-Elle n'avait pas d'entente avec ces gens-là. Et ça, ça a ouvert la voie à un conflit.
Tout se paye en Colombie. Tout se paye. Tout le monde prend sa cote sur tout. Donc là, à un moment donné, Engel dit en fin de journée, je commence à stresser un peu. On le remarque aussi, puis il nous dit, il y a une personne qui vient de m'appeler. Cette personne-là me demande 1 million de pesos pour le dérangement, puis elle dit qu'elle va s'en venir ici, puis que ça va mal aller. Et que ça va barder parce qu'au fond, on va pas à la plantation comme on avait convenu. Et la personne lui aurait dit, si tu me donnes pas l'argent, il y a des gars avec des guns qui débarquent, puis vont vous kidnapper. Bon, moi, je suis pas trop énervé par tout ça au départ, mais au fond, en regardant Engel qui stresse, lui, il sait que au fond, dans un village comme celui où on se trouve, si la merde pogne pour vrai, on va y laisser notre peau, parce que c'est vrai qu'à tout moment, ils peuvent descendre avec des guns. Donc, je passe de pas trop énervé à stressé.
Là, on rentre dans une crise. Félix, là, écoute, il est 10h le soir. Anne-Elle est partie rencontrer ces gens-là, rencontrer des hommes de main qui, eux, avaient en tête de venir régler le problème directement à la porte de la maison. Fait que là, Anne-Elle, il nous laisse seuls et un peu plus tard, on reçoit un message où il nous dit on part à 3 heures du matin parce que notre vie est en danger. Peux-tu dire que là, ça dort pas mal moins bien?
On se dit, tu sais, tu peux faire quoi au fond? Tu vas te coucher puis tu te dis, écoute, s'il se passe quelque chose, on va le savoir assez tôt. Là.
Moi, je suis dans la chambre qui est directement à sa rue. Donc, il faut y penser. Et comme ancien policier, ben, t'as des réflexes. Là, j'évalue si jamais on arrive à la porte et ça se met à tirer, est-ce que j'ai assez de barricades pour me protéger? Fait que je pense à déplacer le matelas s'il faut, le lit, bon, les choses. Mais là, on se couche et il y a une pluie diluvienne qui se met à tomber. Oh. Et là, ça cogne, là.
Ouais.
Pourquoi on est sur un. On a toit de tôle. Ça cogne.
Ouais, ouais.
C'est une tempête. Là, je me dis, voyons, comment qu'on peut partir à 3 heures du matin, reprendre le même chemin sens inverse, au
dans
milieu des montagnes,
là.
OK, à flanc de montagne, où est-ce qu'il y a des glissements de terrain à tout moment, pas sûr qu'on va revenir vivant. Peut-être pas deux balles dans la tête, c'est peut-être une chute de 3000 mètres qu'on va faire, par contre.
Ouais, 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 ouais.
Annelle est prise devant un choix. On attend, parce qu'il mouille, c'est une pluie torrentielle, on est à 3000 mètres d'altitude et il y a des risques importants d'accident. Ou bien, on attend et on s'expose quand même à recevoir une visite de gens armés. C'était ça les choix qu'il y avait devant lui.
C'était vraiment ça l'enjeu.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, ben il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du bureau d'enquête. Pure vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
Par pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
Salut, bon matin. Écoute, on va partir 5h30. Là, il pleut, il mouille vraiment beaucoup et c'est dangereux. De toute façon, j'ai rangé l'affaire hier soir. Je suis allé parler avec les supposés gardes de l'affaire. Donc, il ne va rien arriver ce matin. À 5h30 du matin, on doit partir. Informe Félix Pifret, s'il te plaît. Merci.
Là, Félix, l'affaire, elle tourne encore. Là. Annelle, il m'écrit en me disant qu'il a réussi à repousser notre départ, qu'il a réussi à acheter du temps.
Et on est parti, là, à 5 heures du matin. On s'est réveillé, sauté dans nos pantalons pour descendre au rez-de-chaussée. Je n'ai jamais quitté un endroit aussi vite que ça. Boum, ça s'est fait très rapidement.
Annelle avait acheté du temps, mais il fallait quand même partir.
C'est un peu l'image de ce que tu vois dans ton rétroviseur. On dirait que, donc, on quitte le village, mais plus tu avances, plus le danger que représentait le village où tu étais, il rapetisse. Puis il est de plus petit en plus petit. Et là, le soleil se lève, puis tu perds un peu de vue ce danger-là. Puis en plus, c'était vraiment beau. La beauté des paysages et le lever du soleil s'amène. Et là, tout d'un coup, tout le monde se calme. On est content du stock qu'on a tourné, qu'on a filmé, qu'on a enregistré. Engel se calme. Moi, je me calme. Toi, tu te calmes. Fred se calme. Mais pas pour longtemps.
L'attention se dissipe. Et là, ben, on sort le drone et on s'installe. On est au milieu des montagnes. On a envie de filmer avec ce drone-là, filmer l'immensité, les splendeurs de la région. Et Fred, notre caméraman, ben c'est un expert hein, en manipulation d'un drone.
Puis t'as Engel, puis t'as le chauffeur qui regarde le drone, puis ils n'en reviennent pas, eux autres aussi, comment c'est beau, comment c'est le fun. Et là, moi, je vois le drone, et là, c'est comme l'accident de train au ralenti. Là, je vois le drone qui s'en va vers Fred, où il va se poser le drone, en plein sur la tronche de Engel. Il mange un coup de drone et là, ça y entaille le bras. Alors, on est passé d'un regard amusé à un état d'esprit où on se disait « Oh oui, comment il va prendre ça, le beau Engel, lui, de se faire attaquer par un drone, tu sais? »
Et là, Fred, plus que mal à l'aise, hein, il s'éclipse, il ramasse son drone, il s'en va vers la voiture, il range son stock. Et Anne-Elle, qui reprend un peu ses sens, nous dit un petit peu, mi-blagueur, hein, il nous dit « Fred le sait pas, mais c'est le seul gars qui m'a blessé, qui est encore en vie aujourd'hui. »
Alors, on a gardé ça mort, sans mauvais jeu de mots. On ne l'a pas dit à Fred, mais maintenant, il le sait. Donc, là, on revient à Bogota, puis c'était prévu que Marc, Fred et moi, on parte pour la ville de Barranquilla. C'est une ville côtière qui est sur le bord de la mer des Caraïbes. On s'en va pas là-bas, bien sûr, pour se baigner parce qu'on a une enquête à mener qui est comme en parallèle avec notre reportage sur Engel. C'est une enquête sur une entreprise dont les policiers trouvent qu'elle a des activités suspectes en Colombie. Alors, on s'en va enquêter là-bas pour l'émission de Télé JE, l'émission que j'anime. Et vous pouvez la voir d'ailleurs si vous voulez voir ça sur TVA+, c'est disponible. Et tout ça, ça tombe assez bien parce que Engel, lui, a eu des problèmes avec des gens avec qui il a fait affaire juste avant que nous, on arrive là, en Colombie. Et ça s'est terminé avec des menaces de mort sur sa famille, sur lui. Bref, il a dû cacher sa famille pendant que nous, on était à Barranquilla. Il a géré cette situation-là. Mais nous, on revient à Bogota tranquillement et on est en attente de ce qu'il nous avait promis. Ce qu'il nous avait promis, c'est d'aller filmer les caches de drogue. Par contre, cette situation-là, avec ses anciens clients, puis à faire des menaces de mort, ça s'envenime, ça a un crescendo à ça. Et là, ça devient hyper stressant pour lui, et encore une fois, pour nous autres.
Pour nous, c'est impératif de voir, de filmer cette cage de drogue-là. C'est un de ces fameux restaurants en périphérie de Bogota qui servent à cacher la drogue en attendant qu'elle soit envoyée dans des vols aériens aux quatre coins du monde, dont le Québec.
Alors, c'est la crédibilité de notre enquête qui est en cause. Alors, voir, filmer, visiter, avoir la fameuse shot, l'image, c'est ça que je voulais. Puis c'est ça qui me rendait, encore une fois, très anxieux.
Et parlant de ton anxiété, on vous fait maintenant entendre une conversation que j'ai enregistrée entre nous trois quand on s'est arrêté dans un restaurant. À ce moment-là, il nous restait deux jours à Bogota et Anne-Elle nous revenait toujours pas sur le moment où on pourrait voir, finalement,
cette cage de drogue.
Faites bien, s'arrêter prendre un peu d'eau, hein?
Oui, parce que là, on a tourné pas mal ce matin. Tout ce qu'on a à faire, d'ailleurs, tourner.
Et attendre. Tourner en rond, dépêcher. Ou tourner des images?
Non, se dépêcher pour attendre. Ah. Ce qu'il y a à faire là-dedans, là, tu sais, en journalisme, généralement parlant, en journalisme télévisé, tant que t'as pas la shot. Là, on a des bonnes shots, mais on n'a pas encore la shot. La shot. Tu sais, là, celle que qui va faire qu'en une image, on va tout comprendre. Si on ne l'a pas encore. Puis tant qu'on ne l'a pas, moi, ça me stresse. Là, ça me plonge dans un état d'anxiété. Je déteste cet état-là en attente de la shot.
Et là, quand tu parles de la shot, tu parles des kilos.
Confirmé. Claro.
Oui, bien.
Le journaliste, c'est une question d'accès, tu sais. Mais là, on a de très, très gros accès, des accès
uniques.
Uniques, ici, là. D'abord à la source, d'abord à la cordillère des Andes, dans des endroits où ça pullule les labos. On l'a en image de produit fini, de son produit fini. Il nous l'a envoyé. Non, mais moi, je veux le voir moi-même. C'est une chose qu'ils me prennent en photo, mais que moi, je le vois, c'est une autre affaire.
Le lundi matin, NL doit venir nous rencontrer à l'hôtel à 9h. Rappelle-toi, là, il s'engage à nous rencontrer à 9h du matin pour qu'on puisse aller voir cette cache-là. 9h arrive, NL n'est pas là. Il nous écrit, il y a un problème, il va venir nous voir un peu plus tard. Il va venir à midi. Et là, NL arrive, on le rencontre devant l'hôtel, devant le Hilton, rappelle-toi, et NL nous dit, ça fonctionnera pas. Hein? La crise a augmenté, les menaces de mort envers lui et sa famille ont pris de l'ampleur et il doit partir ce soir avec sa conjointe et le fils de sa conjointe et les cacher à l'extérieur du pays. Et là, on est pris dans une situation là, de « do or die ». Hein, si je peux m'exprimer ainsi en anglais, « do or die », et là, on doit lui mettre de la pression.
T'as raison, parce que il doit partir le soir même.
Le soir même.
Cacher sa famille à l'extérieur du pays, donc c'est la dernière fois qu'on va le voir. Fait que si on le fait pas dans la journée, ça existe pas. Je me rappelle qu'avec Marc aussi, on a eu comme un, sans dire une friction, mais une divergence d'opinion sur... Je me rappelle très bien, on était en face du Hilton, dans le quartier de Chapinero, puis j'ai dit à Marc, là, Marc, on va arrêter de niaiser, là. Puis à partir de maintenant, on va mettre de la pression. Puis je rappelle qu'on a appelé Engel, puis on a dit, Engel, là, c'est le temps que ça se fasse, là. Parce que là, on est venu ici pour ça, puis là, on l'a pas, là. Viens nous montrer ça. Parce que sinon, ça marchera pas, notre topo. Ça marchera
pas. En fait, Félix, là, on va résumer ça bien simplement. Il est minuit moins une.
Exact.
Et on n'a toujours pas la cache de drogue.
Puis là, je me dis, ben, on va falloir mettre, malheureusement, il y a déjà beaucoup de pression, mais il va falloir qu'on en mette plus pour nous autres avoir ce qu'on veut. Parce que c'est pas compliqué. Je veux dire, si on l'a pas, tu peux pas revenir à Montréal en disant, hey, c'est cool, j'allais passer 10 jours en Colombie, puis j'ai pas la shot.
Félix, la clé, elle a été, là, elle se résume à une chose. On a dit à NL que sa crédibilité dépendait de notre capacité d'aller voir cette cache-là. Comment le public pouvait vraiment croire tout ce qu'il nous disait sans qu'il nous montre la cache. Et c'est là qu'NL a dit, c'est bon les boys, on va la voir.
Ouais.
Et il nous a dit, 15 heures dans un quartier en particulier, allez là-bas, je vous envoie l'adresse et attendez-moi sur place. »
Alors, nous, on attend Engel dans un petit restaurant.
C'est un stand à pizza.
C'est un stand à pizza dégueulasse, d'ailleurs.
Non, mais à part la nourriture, rappelle-toi, les gens nous regardent. On n'est pas chez nous, là. On n'a pas d'affaires là.
Puis d'ailleurs, on perd pas notre temps sur l'avenue, là, où est situé le restaurant. On s'engouffre dans le restaurant, puis on s'en va se cacher en arrière. Puis tu vois que t'as des gens, des fois, qui passent la tête un peu dans le restaurant, dans l'abrasure, là, de la porte, là, une porte de garage. Puis qu'est-ce qu'ils font là, eux autres, les trois gringos, là?
Fait que là, Annelle arrive dans le restaurant. Et la première chose qu'il nous dit, c'est « Les boys, vous avez des couilles de vous installer ici. »
Et c'est là qu'il nous explique qu'on est dans une section de la ville contrôlée par des anciens guerrieros, narcotrafiquants, et qu'on n'hésiterait pas une minute à nous faire la peau, ou en tout cas à nous faire du mal là, si on trouvait notre présence suspecte.
Et là, il se passe des choses, là. C'est digne d'un film. On quitte ce petit... Écoute, c'est même pas un restaurant, là, c'est un petit comptoir mal affamé avec lui. Et on marche. On sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est Annel qui colle la shot.
On marche sur l'avenue. On est 4 de large. Et à un moment donné, il y a une voiture, un taxi jaune qui est garé déjà sur le bord du trottoir. Et en marchant, à un moment donné, Engel, il nous pousse dedans. Pfiou! Le taxi décolle. Poum!
Ce qui est drôle là-dedans, c'est que Engel, il parle pas au chauffeur.
Non, le chauffeur,
il part immédiatement.
Où il s'en va.
Il sait où est-ce qu'il s'en va, c'est préparé, c'est planifié par Engel.
Moi, j'ai eu un 5 secondes. Là, à ce moment-là, j'ai eu un 5 secondes de dire... Ah, si bon, on s'en va où, là? Tu sais, là, c'est pas... C'est surréel, là.
Le taxi part. On roule une dizaine de minutes. Et... Il stationne, encore une fois, en périphérie de l'endroit, de la cache, finalement, qu'on doit aller visiter, du restaurant en question. On débarque. Et on se dirige tranquillement à pied... Et là, je sais pas si tu t'en souviens, mais Annel, là, nous dit « Levez vos yeux discrètement vers les appartements en hauteur. » Alors, lorsqu'on regarde en haut, vers les fenêtres, ben, on voit qu'il y a des hommes qui font de l'observation, qui font ce qu'on appelle en milieu criminel et en milieu policier de la « watch ».
Et il se passe des messages et au moins, par exemple, on n'a pas d'affaires là au sens propre, mais on est invité quand même par Engel et son organisation. Donc, on marche tranquillement. C'est un peu bizarre parce qu'on traverse des parcs. On jase, on fait sentir, on essaie d'emprunter un air un peu plus normal, un peu insouciant. Boum, 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 au fond, on s'en va finalement dans ce qui est un restaurant en temps normal. Puis c'est là que la cache est située. Alors, en se dirigeant vers le restaurant, Engel nous fait ses dernières recommandations. Il dit, les boys, vous avez 5 minutes. C'est un vrai 5 minutes. Alors, on entre dans le restaurant. Moi, je pars mon chrono pour être sûr qu'on respecte le 5 minutes en question. Et là, rapidement, il nous fait faire le tour. C'est tout petit. Il y a un frigo, des tablettes et un plan de travail pour cuisiner les arepas. Mais un des mets traditionnels colombiens. Et donc, il lève le plan de travail. Et là, il y a un double fond. Et là, boum, à peu près quoi? Une vingtaine de kilos?
On est à 20 kilos, assurément.
20 kilos de coke. À ce moment-là, je le sais, là, c'est la money shot. Hein? On appelle ça la money shot. Donc là, genre, Fred se met à filmer. Je prends mon micro, j'accroche mon micro. On commence à enregistrer. Et là, Fred me dit, il me regarde, puis il dit, Félix... J'ai pas de son. Là, moi, j'ai passé, là, j'ai dit, fuck, tabarnak, Chris. Je les ai tout dit, pendant, c'est comme 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, Marc a pris l'iPhone de Fred, a enregistré mon audio sans que ça paraisse. C'est toujours là que ça arrive en télé, d'ailleurs. Tu sais, quand la shot est là, quand la shot arrive, Il y a toujours quelque chose qui se passe. Fait que là, on n'avait pas de son, mais finalement, on s'est arrangé. Bref, on a tout filmé ça, puis on est parti pour être content.
En elle, il nous dit 5 minutes. Pas pour rien qu'il nous dit 5 minutes, parce que lui, il s'est engagé envers les gens qui contrôlent le restaurant. Et lui, il a donné sa parole qu'on ne dépassait pas 5 minutes. Alors là, dans ces péripéties qu'on vit à l'intérieur, où le son ne fonctionne plus, le chronomètre continue à descendre. Mais au final, ben, on l'a respecté les 5 minutes et on est sorti.
Ouais.
On est sorti juste à temps, à vrai dire.
Oui, puis on a marché tranquillement pour aller prendre un autre taxi. Et là, cette fois-là, chacun un taxi différent. Nous, une voiture qui allait nous ramener à notre hôtel. Lui, une voiture qui allait le ramener, whatever, où. Et on a pris une dizaine de minutes sur un coin de rue, parler. On savait que c'était la dernière fois qu'on le voyait.
On a fait nos adieux à ce moment-là.
On a fait nos adieux. Ouais. Assez émotif, parce qu'à un moment donné, il y a toujours un moment là où c'est la dernière fois. Tu sais, dans ces affaires-là, il y a toujours une dernière fois. Quand on traite avec ces gens-là, c'est pas une promesse de se revoir pour une bière à un moment donné puis on a eu ben du fun. C'est une promesse de faire de notre mieux, de notre côté, pour raconter son histoire. Puis de son côté, ben c'était aussi l'émotion de nous avoir partagé son histoire.
Et je te rappelle que Anne-Elle, ce soir-là, quittait pour un autre pays.
Ouais.
Il quittait la Colombie, à un endroit qu'il nous a jamais dit.
Et qu'on veut pas savoir. Parce que c'est pour des raisons de sécurité pour lui, puis c'est des raisons de sécurité pour nous. Parce que quiconque pourrait venir nous demander où est Angle, pour vrai, là, on ne sait pas.
Il n'y a pas juste ça, il y a le fait que dans le choix que Anne-Elle a fait, il savait et il nous l'a dit, il savait qu'en sortant de cette façon-là, publiquement, il mettait sa vie en danger. Mais ça l'a été sa volonté. Il le voulait vraiment. D'une part, par mon expérience policière, j'ai appris que les gens avaient souvent plusieurs dimensions. Une personne n'est pas uniquement une chose. Et Anne-Elle nous a démontré qu'il n'était pas qu'une chose.
C'est vrai.
C'est un narcotrafiquant, mais c'est un homme de famille qui avait aussi un autre volet de sa vie, un autre caractère aussi. Je l'ai vu dans la police, je l'ai vu chez Anne-Elle, et ça reste troublant. On le ressent intérieurement, cette espèce de dualité-là. En même temps, on a vécu, quand on a passé 2 semaines avec lui, ça a été très intense, avec toute la pression et le stress qu'on a vécu là-dedans. Et en une fraction de seconde, tout ça disparaît.
Donc là, on prend notre vol de retour, un vol Bogota-Montréal, Air Canada. On sait que la drogue qu'exporte Angle, il le fait en partie sur des vols d'Air Canada en destination de Montréal. Puis là, nous autres, on est dans un vol d'Air Canada dans lequel il y a probablement caché des kilos de coke. Et on est fatigué. Et on atterrit à Montréal, puis on espère que ça va se passer le plus vite possible, puis qu'on va franchir les douanes, fiou, sans trop de délai.
Et là, ben on a une surprise. On est au carrousel pour récupérer nos valises, au carrousel du vol de Bogota-Montréal. Et ouais, il y a peut-être une centaine de personnes qui sont un petit peu éparpillées puis attendent leur valise. Et il y a un agent qui arrive avec un chien pisteur. Et il fait le tour de toutes les personnes qui attendent les valises et le chien se met à sentir chacun des individus. Le chien se met à sentir toutes les valises sur le carrousel qui est en marche. L'agent en question met sa main, il palpe chacune des valises et... Mon réflexe d'ancien policier, ben, on pense qu'il y a de la drogue. Et en fait, bon, j'ai parlé ensuite à une source dans le milieu des douanes et il m'a confirmé qu'à ce moment-là, ils avaient une information que de la drogue était à bord de ce vol-là d'Air Canada.
Je savais pas que tu avais fait ça.
Oui.
C'est comme boucler la boucle.
C'est quand même incroyable que lors de notre vol de retour, suite à notre reportage sur le narcotrafic, c'est incroyable de réaliser qu'il y avait probablement de la cocaïne dans ce vol-là.
Alors, c'est le dernier épisode de Narcos PQ. Et on va se dire peut-être à bientôt parce qu'on garde la porte ouverte à vous reparler selon l'évolution du dossier de l'importation de la cocaïne. Tout ça pour dire qu'on vous revient peut-être bientôt pour un vrai dernier épisode de Narcos PQ au cœur de la Colombie.
Animation Félix Séguin et moi-même Marc Sandreski, réalisation et montage Anne-Sophie Carpentier.
Merci à Bastien Gagnon La France et Jean-Louis Fortin ainsi qu'à Étienne Roy pour leur aide. Merci aussi à Ève Lévesque et Éric Thibault. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous avez aimé ça, il y a un livre qui s'appelle « Guess what? Narcos PQ » qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Puis, si vous en voulez encore plus, ben, allez écouter l'émission de télé qu'on a fait là-dessus. Ça s'appelle J.E. C'est moi-même qui l'anime. Et puis, vous pouvez trouver ça sur TVA+. Bye tout le monde.